Bienvenue à la fin de l'épisode 107. Je suis avec Patrick.
Salut Nick.
C'est spécial AIA qu'on enregistre dans lequel à Québec. Nous sont ailleurs. Coplogue 16 au 20 RIS à Paris. 6 à la Cité des sciences à Paris ou Québec. Le 25 juillet, sujet. Le 22 août, bière des techs. 7 au 9 avec organise le congrès international sur les technologies émergentes. Premier deux, c'est le Hackfest, le Hubs. Et finalement, en avril, le Sécure revient. Commençons avec les nouvelles. Fuite d'informations qui a eu lieu aux frontières américaines, où il y a un Américain qui se serait fait hacker et qui faisait comme contracteur, c'est de prendre les photos. Fait que maintenant, dans le dark web, il complète toutes les images, et souvent peut-être même un peu plus que les images photos qui sont...
Ils prennent des photos de ton visage, presque un 360 là, de ta voix. Fait qu'on commence à voir des choses, j'ai hâte de voir si ça va être plus que les plaques.
Ça risque, oui, c'est sûr que les dans la nature des marchés puis des financiers de liquer l'information, ça démontre en quel point le dans ces informations-là puis les lacs de attirent finalement les que ça sent le... Ça s'assure que ça les attire. Fait que c'est aussi une façon qui devra être faite. Et le big data et machin devra être petit data parce que.
Tu veux qu'on revienne
en arrière? Qu'on revienne en arrière, mais qu'on ait une gestion plus. Que, ça attire les gens, c'est pas en sens où on va revenir en arrière, mais. De toute façon, c'est que ça. Fait que, il va falloir faire quelque chose.
D'organisation aussi, que côté que oui, il doit y avoir des équipes, mais je pense pas. Moi non plus. Et c'est que ça donne.
Oui, il y a beaucoup de place où c'est prêté la sécurité.
Yes.
Puis dans le fond, on va juste tomber à deuxième, c'est pas une priorité. Puis on l'avait vu à 4.
Il y a longtemps, en plus, on parle 12 à peu près.
Ah, au moins. Ça fait vraiment un bail là, où les pompes ont été découvertes comme étant vulnérables par deux bugs sérieux. Donc, ce qui fait que les gens qui tuent sont vulnérables à un bail. Quelqu'un qui veut passer à côté d'eux veut dériver faire à peu près tout et n'importe quoi, sur ces, incluant le
posé des gens. On parle de.
C'est des machines qui sont très...
à ce point-là.
Oui, c'est des machines très importantes pour la qualité de vie de ces gens-là. Et en plus, on leur injecte quelque chose qui potentiellement peut causer des problèmes de santé graves jusqu'à la mort. C'est assez terrible. Puis c'est pas chouette, mais je comprends pas qu'on a encore ce genre de choses-là qui existent. Mais on fait juste regarder tout le fiasco des de Boeing. Puis à quel point, finalement, les corporations se sacrent. Est-ce que 737, ça ne fait que s'agrandir à chaque jour, puis à chaque fois, pire qu'on découvre à quel point la série, puis ça en a un autre, puis c'est encore la vie des gens et maintenant.
Ouais, mais on revient encore à le médical et autres, la petite boîte noire IoT ou sécurité, parce que je ne sais pas s'ils pensent encore qu'il n'y a personne qui va ouvrir la boîte ou quoi que ce soit, mais cette tendance-là, il faudrait qu'elle disparaisse. Puis ça fait longtemps de ça, justement, comme on disait, 2010-2012, on a vu ça présenté aux États-Unis. Puis à chaque année, on en reparle, puis il se passe pas grand-chose. Tu fais référence à Boeing, eux, leur équipe de sécurité, puis je veux dire, le domaine aviatique, il y a de la sécurité intense là-dedans. Je veux dire, tout est basé sur le concept de la sécurité. Parce que vous savez, si vous prenez l'avion, c'est pas le confort qui est en premier, c'est clairement la sécurité. Si eux ont de la misère, imaginez la petite chose à côté qui développe une pompe à insuline qui n'ont pas d'équipe de sécurité. C'est pour ça qu'on est encore loin derrière.
Ouais, puis une vitesse à arriver sur le marché, contrairement à l'avionique où ils ont un délai beaucoup plus long de cycle de vie de leurs appareils. Là, ces compagnies-là sont très pressées. On le voyait aussi énormément en TI, ce genre de problème-là où les compagnies étaient pressées de sortir des produits incomplets et donc non sécuritaires. Puis bon, ça s'est modérément réglé depuis, là. Mais on a ce genre de choses-là. On peut en parler longtemps, finalement.
Oui, exact. On va sûrement en reparler, en fait, plus ça.
Oui, c'est malheureux. C'est 7 ans plus tard, on reparle d'un problème qui a été dit il y a déjà 7 ans, dans lequel on aurait pensé que minimalement, il y aurait eu certaines corrections qui ont été faites, puis pas partout.
Right.
Mais bon. Passons à la nouvelle suivante. Il y aurait une poursuite contre Amazon, suivant que Alexa écouterait probablement tout ce qui se passe dans la maison. Et là, moi, je suis pas fondamentalement très étonné. C'est pas le premier fiasco que Alexa connaît. Dans ce cas-ci, ben là, c'est vraiment dans un cas spécifique au niveau de ça vient.
Mais on choisit la poursuite a comme choisi un chemin pour être capable d'attaquer Amazon. Ouais. Versus de dire, ah, vous écoutez tout, ben là, ouais. Ils vont dire, ben, vous enregistrez aussi sans consentement la voix des enfants.
Ouais.
Parce qu'officiellement, ils enregistrent vraiment tout. Versus si on parle un peu plus des Google Mini, les Home et autres, oui, ils enregistrent, mais ils n'enregistrent pas temps plein. Et il va faire des petits segments, mais Alexa, lui, il peut presque enregistrer ta journée au complet. Là.
Ouais, puis il y a eu des scandales.
Oui, il y a eu plein de scandales. Il y a eu des meurtres résolus avec ça. Il y a eu plein de choses qui n'ont pas de sens.
Ouais, l'invasion à la vie privée, c'était quand même assez imposant. En tant qu'à parler de violation à la vie privée, Facebook qui revient encore dans les nouvelles parce que il y a encore de la collecte d'informations, il y a encore des informations qui fuient. Puis même personnellement, j'ai des comptes Facebook associés avec des adresses courriel qui sont utilisées que pour ça. Et j'ai commencé à recevoir du spam sur ces adresses-là récemment. Et ces adresses-là sont utilisées vraiment nulle part ailleurs. Fait que c'est assez fascinant à quel point le degré d'éthique de Facebook est un peu souple, finalement. Puis même s'ils disent qu'ils vont bannir des applications, des choses qui contreviennent, l'effort est ultimement pas très, très probant.
Exact. Puis si on continue à parler de Facebook, une autre nouvelle que j'ai vue cette semaine, c'est un tweet d'une des conférencières qu'on a déjà eu au Hackfest, là, Sarah Jamie Lewis. Un tweet humoristique, mais un peu très triste en même temps. Elle dit j'ai hâte de voir une cryptocurrency, la monnaie virtuelle, avec le niveau d'éthique de Uber, le censorship de PayPal. La centralisation de tout ce qui est Visa et tout ça sous la gouvernance de la vie privée de Facebook. Puis elle met un lien en dessous qui est l'annonce que Facebook vient de rapporter d'obtenir du financement de 10 millions de toutes ces compagnies-là pour la création de leur crypto-monnaie. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Ça fait peur en même temps. Il y a beaucoup de monde qui dit que ça peut bouleverser un peu l'économie, la démocratie, whatever, autant que Facebook bouleverse ça avec la manière qu'ils affichent leurs nouvelles et tout. Mais c'est un dossier à suivre. On n'a pas plus de détails encore, mais il y a du financement de grosses, grosses, grosses entreprises à force de 10 millions qui vont annoncer sous peu là, leur crypto project.
Crypto-monnaie?
Crypto-monnaie, oui. Ils l'appellent le crypto project. Là. On ne sait pas le nom officiel de la monnaie, mais ça va être quelque chose de spécial à suivre, là, assurément. Là.
Je demeure encore sceptique sur les crypto-monnaies, là, sur la portée que c'est réel que ça va avoir. C'est sûr qu'il y a un hype qui est en train de se dégonfler par ailleurs avec le Bitcoin, entre autres.
Oui, exact. Mais là, le hype va comme repartir parce que c'est Facebook. Ça va être différent. Puis je pense pas que ça va être une monnaie utilisée à la Bitcoin partout. Considérant que le réseau de Facebook est énorme, ça va sûrement être au départ utilisé à l'interne.
Ils créeraient leur propre marché.
Oui. Comme ils créent leur propre plateforme de publicité, de marketing, etc. Un peu à l'Amazon qui...
Ouais, c'est ça, j'allais dire. J'allais juste voir tout, Amazon.
Exact.
Amazon créerait sa propre monnaie, ça serait peut-être même pas
ça
surprenant.
Ça serait encore plus dangereux. Mais...
ça serait même pas étonnant, mais ils ne l'ont pas fait encore. Non, fait que j'imagine que si Amazon ne l'a pas fait, c'est parce qu'ils ne voient pas l'intérêt réel de le faire encore du moins. Là, où il y a des...
Où ils ne sont pas rendus là, oui.
Où il y a des barrières trop élevées à l'entrée qui les refroidissent, supposons.
Exact.
Parlons maintenant d'une cyberattaque qui aurait eu lieu en Chine lors d'une manifestation à Hong Kong. Il est supposé, jusqu'à preuve du jour, supposé que la Chine aurait jeté à terre Telegram durant la période de la manifestation à Hong Kong, justement pour limiter la capacité des gens à communiquer. Le moyen n'est pas nécessairement étonnant parce que ce n'est pas la première fois que en période d'intervention, on coupe les médias de communication. Et dans ce cas-ci, c'est la première intéressante que c'est des médias chiffrés qui sont pas dans leur contrôle puis qui interviennent dessus. Fait que c'est intéressant de voir que...
c'est comme leur seul moyen d'intervenir dessus, c'est de faire du déni de service.
Oui, tout à fait. Puis c'est assez fascinant, un peu épeurant aussi à savoir que maintenant, des pays auraient l'intérêt potentiel de jeter des services à terre sur la base que ça nuit à leurs intérêts intérieurs.
C'est un gros step dans une direction qu'on veut pas, ça.
Non, ouais. C'est très, très, très inconfortable parce que là, le pas est fait. Ensuite, qu'est-ce qui dit que les... et là, on parle de nos peuples alliés normaux, là, les États-Unis ou les pays d'Europe, utiliser les moyens similaires à ça pour venir jeter à terre des choses qui, des protestations, des éléments comme ça. Donc, puis dans des pays où on tolère mieux la protestation que la Chine. C'est pas, ouais. C'est pas super chouette. Là.
Puis on parle de 200 à 400 gigabits par seconde. Fait que c'est pas du petit réseau, là.
Oui, oh, c'est assez pour écraser à peu près tout ce qui existe. Là. C'est pas chouette pas en tout, là.
Exact.
Puis, on va aller, une dernière nouvelle, parce qu'on va être plus dans de l'opinion. Puis ça, c'est parce que c'est, Patrick a une énorme fixation sur ça.
C'est
le fax.
Ah, le super fax. Tout le monde sait que c'est super sécuritaire, right?
Mm.
Non, mais en fait, vous avez sûrement entendu parler de la transformation numérique au gouvernement du Québec. Ce qui est une très bonne direction, un nouveau changement, quelque chose qu'il faut faire. Mais une des premières nouvelles qui est sortie, c'est que le fax va arrêter d'exister d'ici 2023. On est en 2019, donc 4 ans. CAIR a promis de faire ça, de mettre ça en place. Mais on s'est mis à parler à beaucoup de personnes, justement, qui sont au ministère et autres. Et oui, on sait que les fax sont là, mais ils sont plus que présents qu'on pense. Là. C'est... L'utilisation de ça est énorme. Parce que si on dit arrêter les fax en 2023, 4 ans, ça paraît un peu drôle de prendre 4 ans pour enlever juste des fax. Mais c'est tellement présent au sein de la machine que tous les services, autant médicaux que d'autres ministres à l'interne ou par les fax, qu'on se retrouve dans une situation pognée avec ça encore pour plusieurs années. Là, un fax, il est au 0, c'est transmis en clair. On peut... Ce qui est un peu niaiseux, là, mais je veux dire, tu peux envoyer vider les machines comme ça, ping tout le temps. Il y a beaucoup à être fait sur un fax. Taxe sur ça récemment. Trois feuilles que tu prends, puis tu les attaches ensemble, puis tu le mets dans le fax à une fenêtre, puis les feuilles tournent à l'infini. Comme... C'est niaiseux. Bien que je suis de faire ça.
Des attaques en...
Un déni de service analogique par fax, c'est incroyable. J'ai vraiment ri, celle-là.
C'est effectivement excellent. En tout cas, de mon expérience, c'est vrai que c'est encore très répandu, les ouais. fax. Puis le problème, c'est que c'est tellement ancré dans les processus administratifs.
C'est ça. C'est
j'imagine
ça le bug, en fait.
Qu'en santé, ça va être tout, probablement comme dans d'autres ministères organismes, très complexe à retirer. Puis le problème, c'est plus autant le fax qui est papier, c'est parce que les fax, les compagnies étant pris avec ça il y a longtemps, ont décidé d'informatiser ça. Et pour ceux qui se souviennent, RightFax, qui était un logiciel fax centralisé, c'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir ça, une machine physique, ben, c'est un ordinateur qui reçoit les fax
mm-hmm.
et qui est distribué comme un système de courriel. Donc, on a informatisé ces affaires-là, fait qu'on est pris encore plus parce qu'on a informatisé. Et de là, ben, dans les processus informatisés, il y a un fax qui s'en va automatiquement dans le processus. Puis tout l'ironie, c'est que c'est deux serveurs de fax qui se parlent ensemble. Il n'y a plus de papier qui se promène, il n'y a plus rien. Puis c'est juste parce que
ça s'envoie dans les boîtes courriel après, mais le point initial, c'est un fax.
C'est un fax, mais qui est mécanisé. Fait qu'il n'y a même plus d'humain qui se prend devant une machine, qui essaie de composer son fax. Qui prend les feuilles dans les choses, puis qui fait, même, c'est juste une extension des processus, d'où probablement l'énorme complexité avec laquelle ils vont affronter pour le retrait. Mais ce que je trouve drôle, c'est que c'est une mesure forte annoncée par le ministre.
Je comprends le concept qu'il faut innover, mais il y a tellement de trucs plus importants que dire on va enlever les fax. C'est quand même drôle qu'une des premières nouvelles qu'on entend, ce soit ça. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que je pense que ça fait 6-7 ans, j'ai participé dans un des certains ministères à la mise en place de la numérisation des fax. Juste pour vous dire que ça fait pas quand même si longtemps que le concept automatisé a été mis en place. Il fallait travailler sur la sécurité des PDF, le chiffrement et tout, pour que ce soit sécuritaire, parce que évidemment, le fax, c'est zéro sécurité, mais après ça, on veut que le document soit sécuritaire à l'interne. Donc, c'est ce genre de projet-là qui va être impacté par ça.
C'est tout à fait drôle, mais donc, j'aurais pas fait cette mesure-là comme étant une mesure phare, surtout que, en plus, dans un état de communication, l'objectif, c'est de rendre compte au public qu'un meilleur usage des fonds publics, puis ultimement, il est déjà mécanisé le fax. Donc, ça change rien. Puis la mise en place de mesures parallèles, c'est complexe, c'est coûteux. Puis, mettons que j'aurais mis mes sous ailleurs, mes sous de transformation ailleurs.
Exactement.
Ça aurait eu un effet, en tout cas, du moins sur la prestation de service à la population, ça aurait été
plus. On parle de sécurité, là. On aurait pu mettre le budget sur la sécurité, mettons, sur n'importe quoi d'autre.
Par exemple, c'est sûr que nous, on est biaisés
oui,
pour
oui,
ça.
On
puis,
pousse là-dessus, mais...
puis ça l'amène justement là, au dernier point que j'amène. Puis c'est un plus un sujet libre, là, et Patrick, moi, qu'on va discuter
mm-hmm.
sur le fait que de nos expériences professionnelles, on a souvent constaté des organisations qui sont très prudentes dans l'application des mesures de sécurité. Conséquemment, ils se laissent être vulnérables parce qu'ils sont trop prudents dans le déploiement des mesures de sécurité. C'est pour moi une boucle absurde, mais je vais te laisser un peu enchaîner là-dessus. Là.
Mais
de ton expérience.
Oui, mais c'est parce que le problème avec ça, c'est que tu tombes dans un concept un peu avec tout ce qui est legacy. Là. Tu ne veux pas améliorer les choses, donc tu risques parce que tu vas apporter
si
peut-être un
risque.
Si tu n'es
pas brisé, répare-le pas.
Oui, c'est ça. Fait qu'on a toujours fait ça de cette manière-là, donc pourquoi on ferait mieux? Mais là, tu parles de sécurité, tu ne parles pas juste de la technologie ou de l'innovation. Tu mets en jeu l'insécurité ou l'insécurité plutôt de tout. Puis tu sais, personnellement, dans plusieurs, on voyait, c'était surtout au niveau de la legacy. Attends de l'exemple de ASP. Avant que le .NET était sorti. Et la plupart des sites web internes, etc., de l'organisation étaient en ASP. Oui. Pour rajouter de la sécurité, il faut toucher. Je viens à ton point. Ah, puisqu'il faut changer les choses. Ouais, c'est long, c'est compliqué.
C'est ça. Puis c'est tout le problème de la dette technologique. Puis on l'a déjà abordé dans d'autres contextes. Mais au niveau de la sécurité, cette dette-là, elle est massive.
Et c'est énorme.
Et elle a des conséquences. Puis là, on commence à avoir des conséquences d'un point de vue humain. Donc, il commence à avoir des vies qui se perdent parce qu'il y a des mesures. On est trop précautionneux pour mettre des mesures de sécurité parce qu'on a peur que ça brise le système. Mais au final, on finit par créer des problèmes beaucoup plus importants et qui mènent, dans certains cas, à des pertes de vie. Donc, la notion de prudence de notre. C'est ça que on est biaisé.
Oui, on est biaisé, mais je veux dire, c'est pas la manière de faire une analyse de risque. T'es pas supposé de dire on va être prudent, on va y aller lentement. Non, c'est pas ça le risque. Le risque, c'est que justement, tu dis, ça peut être des vies au bout de la ligne ou de la perte de données, la perte des clients, des gros frais. Ben, tu acceptes tous ces risques-là parce que, il faudrait investir.
Parce que
tu es 20 ans tard. Je veux dire, ça fait pas de sens.
C'est un peu ça. Puis là on va prendre le méchant Boeing dans ce cas-ci. Parce que tout le fiasco de Boeing, c'est parce qu'ils ont voulu capitaliser sur un modèle d'avion qui date de 50 ans. Ils font juste comme rafraîchir un peu puis mettre des petits gizmos supplémentaires. Puis le 737 MAX, ils ont juste changé le design pour le rendre plus écologique, c'est-à-dire la façon que les moteurs étaient disposés. Par ailleurs, ça devait débalancer l'avion de façon importante. Ils ont mis en place un système informatisé pour contrôler ce débalancement-là. Et celui-ci s'est avéré être en option dans certains cas.
Oui.
Et les pilotes n'étaient pas formés sur l'usage de ce mécanisme-là. Fait que, puis le fameux mécanisme, il est juste parti en couille. Fait que il a créé deux crashs d'avions et ils ont tué des gens pour de vrai parce que...
Mais ça, c'est terrible, par exemple, le point que tu as dit qui était en option, parce que quand les nouvelles sont sorties via Air Canada, je pense qu'on avait déjà parlé de ça, mais...
À l'épisode 100?
Oui. Air Canada a dit, ben nous, on n'a pas de problème, on a acheté les modules supplémentaires qui offrent la sécurité, mais j'étais comme, supplémentaire, c'est supposé être par défaut, ça, surtout dans un avion.
Et partout, ça devrait être.
C'est ça l'affaire, c'est que la sécurité devrait être par défaut. On est dans le...
On est dans des univers, puis on a des grands fournisseurs infonuagiques qui vont mettre en option aussi la sécurité.
Oui, exact.
Puis tu sais, c'est là où il faut faire très attention quand on dit que l'infonuagique est peut-être plus sécuritaire. Oui, mais pas. Un, c'est tu payes, puis juste dans ton. C'est à l'extérieur de ton tenant. C'est-à-dire que le fournisseur infonuagique est intéressé pour la sécurité de son infrastructure, pas de ta zone de location.
Oui, pas de la partie applicative que tu contrôles.
Pas dans tes choses.
Si on regarde Amazon, même si vous allez sur le site de AWS, vous faites des formations là-dedans et autres, la première chose qui vous explique, c'est la sécurité de l'infrastructure.
Oui.
Puis quand tu as fini de parler de l'infrastructure, tu l'as en rouge, gras, super gros. Tout ce qui est après et par-dessus, configurable par vous, ben Amazon a zéro responsabilité sécurité. C'est zéro pin bar.
On a vu plein de cas de buckets S3 qui se sont défoncer.
C'est
parce
constant,
que,
là, c'est pas disparu.
C'est pas la faute à Amazon, c'est la faute à l'utilisateur qui décide d'ouvrir ça à la planète entière. Donc, tu sais, on est encore dans un univers où la sécurité est en option, les choses sont en option, puis c'est comme fascinant.
Ce qui est terrible là-dedans, dans les, je pense que c'était Hackfest 2010 ou 11 dans ces coins-là, je sais pas si tu t'en rappelles, Danny. Qui hausse les choses de Hackfest.
Oui.
Fullerton a donné une conférence qui s'appelait justement Broken by Design. Mais oui. On est encore là. Ça fait presque 10 ans de cette conférence-là. Puis je veux dire, c'est un concept qui est existantif, fait que ça fait beaucoup c'est trop long.
Comme ça, puis j'en ai fait des allusions dans le conflit sur la château d'entreprise où le fait que une réflexion qui mène à thème, c'est les pas les bons en place, ce qui mène à des choses qui sont.
En même temps, la manière de faire est souvent pas bonne. Comme analyse de risque, il y a plein des entreprises.
Déjà.
Ils n'ont pas de catégorisation. D'un, il faut déjà que tu aies une analyse. Ouais. Tu fais des choses qui flottent. Mais encore pire, le trois quarts n'ont pas d'information. Fait une analyse de risque sur quelque chose qui existe, que peut-être qu'il n'est pas catégorisé le niveau. Ça fait sens. On est prudent en sécurité des choses parce que le processus, la manière.
On sait pas. Oui, j'ai même vu des organisations où la sécurité est attachée dans le vide, c'est-à-dire qu'on fait de la sécurité pour le plaisir de faire de la sécurité, ce qui est une notion qui est complètement absurde parce que la sécurité sert à répondre à un besoin. Soit dans le monde réel, la sécurité va servir à protéger les gens. La sécurité dans le construction d'un pont est pensée pour pas que le pont s'écrase. En automobile, les ceintures, les coussins gonflables pour protéger la vie. Fait qu'il y a un besoin. Puis tout ça fait qu'on devient prudent, on sait pas où on s'en va, tout ça. Puis on attache finalement la sécurité dans la ville, on met des mesures qu'on garoche dans les airs sans y attacher rien.
Puis même le pire là-dedans, c'est qu'au gouvernement, tu as ces mesures-là qui sont mises en place dans le vide. Si tu prends l'exemple, je pense, c'était 2014, là, ou dans ces coins-là, qui ont obligé tous les ministères à faire 2 pentests par année obligatoires, qui est une bonne mesure. Ouais. Mais tu tombes quand même dans une mauvaise gestion parce que tu as des ministères qui n'ont pas d'équipe de sécurité, qui ne savent même pas c'est quoi tes intrusions, puis là, sont obligés d'en faire. Mais qu'est-ce qu'ils font avec le résultat? On se questionne, c'est ça, c'est pas utile. Peut-être que ça serait utile pour certains, mais je veux dire, le processus de sécurité est zéro, puis là, ben, ils font des tests d'intrusion. Fait que, ils se débrouillent. Fait que, tu sais,
oui,
c'est plate, là, au final, parce que ils font le test, ils disent pas à la personne, viens m'aider à le réparer, là. C'est comme, non, j'ai mon rapport.
Ouais, ça me rappelle le début des années 2000 où il y avait le grand trip des analyses de risque aussi, là.
Oui, oui.
Il y a comme une grande mode de ça, puis tout le monde l'a fait. Mais cet exercice-là, qui, par aurait dû être utile, ne l'a pas été parce qu'il n'y a pas eu de suite.
Exact. Parce que, comme on a dit tantôt, tu as ton inventaire, tu as toutes tes choses, tu as ton analyse par-dessus, tu prends tout ça, puis tu fais ta gouvernance, tu mets ton analyse, tu l'appliques, tu mets tes mesures de sécurité, mais si tu ne fais pas le cercle au complet, tu te ramasses d'une organisation que tu sais que le serveur et la donnée est catégorisée 3. That's it.
Oui.
C'est ça.
Oui, mais en tout cas, on est chanceux dans notre malchance, là, parce qu'on n'a pas eu connu d'avaries majeures encore au gouvernement du Québec. Fait que ces mesures-là. Non.
Mais là, je ne sais pas si tu as vu, je pense que c'était la semaine passée, on le rajoutera dans les show notes. Il y a une nouvelle qui est sortie sur 55 entreprises piratées en même temps via des crypto-lockers dans l'Outaouais.
Oh, quand même.
Fait que là, on se ramasse au Québec avec des attaques de masse. Ça devienne de plus en plus présent. Là. Ça, on s'entend, là, c'est des petites entreprises qui n'ont aucune sécurité.
Ouais, qui n'ont
pas de budget, mais qui n'ont même pas lu la sécurité. Là, le hoster, whatever, c'est un peu de sa faute, là, je crois, dans cette histoire-là. Mais ça reste que, je veux dire.
Ouais, c'est comme ça. C'est comme le leak qu'on a discuté dans le dernier épisode sur les 12 millions de Canadiens. Dans les faits, il n'y a peut-être pas 12 millions parce qu'il y a des doublons. Je n'ai pas eu le temps de faire l'analyse complète. Je pense qu'il y a 12 millions de lignes, mais comme il y a des doublons, j'ai un doute raisonnable, mais comme il n'y a pas de date associée avec la prise d'information, on n'a aucune idée d'où ça vient ou si ça vient de sites différents. Mais cette base de données-là, elle n'est pas répertoriée sur Have You Been Pwned. Donc, elle est comme ailleurs. On a une compagnie potentiellement canadienne ou québécoise qui leak encore l'information, puis on n'a aucune idée c'est où.
Puis, on le saura peut-être pas.
On le saura peut-être jamais, puis en tout cas, au moins que c'est peut-être dans le dark web, il va s'en venir par se faire connaître, mais le grand public ne le connaîtra pas. Puis il y a peu de gens, à part un Damien, comme on a dans notre équipe, qui fait ce genre de choses-là. Il y a peu de gens dans ces univers-là.
Oui, qui mettent le temps 100% dédié à rechercher ces choses-là.
Oh, oui.
Il y a des grandes entreprises qui le font pour eux-mêmes.
Ouais,
mais tu sais, s'ils voient que l'entreprise à côté leak, c'est pas leur effort d'aller là.
Non, tout à fait. Bon, on va clore là-dessus pour cette fois-ci. C'est sûr que ces sujets-là vont revenir. C'est une trame de fond de toute façon qu'on vit. On n'est pas à à la fin des fuites d'informations, on n'est pas à la fin des problèmes. Ce que je souhaite, c'est que, parce que c'est mon environnement plus immédiat, tout ce que je sais maintenant d'ailleurs,
oui.
Que la fonction publique québécoise pose des gestes sérieux et concrets pour la sécurité. Je souhaite que les mesures que le ministère fait promotion vont se matérialiser sur quelque chose et des résultats, pas juste sur du papier et sur juste le retrait des fax.
Ouais, on espère que ce soit plus que ça et que ça se réalise parce qu'on est un peu pessimiste par défaut pour avoir trop travaillé dans ces ministères-là.
Ouais, ben d'avoir vu, toujours vu les. Quand on voit que des problèmes, finalement, on ne fait que voir les problèmes.
Ouais, c'est ça.
C'est malheureux.
On est des très bons analystes à trouver des problèmes. C'est ça, souvent notre spécialité est problématique.
À certains égards.
Yes.
Fait que comme c'est le dernier épisode qu'on va enregistrer officiellement en juin. Puis là, dans le fond, j'en profite pour annoncer que le cycle d'été commence. Fait que les diffusions vont être beaucoup moins régulières. On va commencer à vous passer aussi les entrevues qui ont lieu au Sécur. On va commencer à passer plus des épisodes spéciaux aussi durant l'été sur des sujets. Chez Patrick, il y en a plusieurs dans son portefeuille de projets, de podcasts spéciaux. On se suppose en avoir un avec des personnes super intéressantes dans les prochaines semaines.
Ça s'en vient.
Puis ça va tout pendant tout l'été. Fait que même si on est moins fréquent, on a encore des sujets fort intéressants
à partager. On va être en spéciaux au lieu d'être en nouvelles.
Ouais.
Yes.
Sur ce, bonne semaine.
À plus.